Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. C'est un génie absolu de la chanson française qui s'est éteint cette nuit. Michel Legrand est mort à l'âge de 86 ans. Retour sur le parcours du compositeur, du jazzman Michel Legrand avec Sophie Delpont. Et puis avec nous pour évoquer cette disparition, le compositeur Stéphane Lerouge. Il a longtemps collaboré avec Michel Legrand et avec lequel il a notamment écrit deux livres. Nous évoquerons la fin du shutdown des États-Unis. Hier soir, le président Donald Trump a signé un accord avec les démocrates pour 3 semaines avec une possible nouvelle impasse en vue. L'analyse de Christian Chesneau et la Bulle Écho en fin d'édition. Marie Viennot nous parle de l'avenir du travail à l'occasion des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. Plus de 65 ans de carrière et des chansons qui sont ce midi dans toutes les têtes. Michel Legrand, l'un des plus grands compositeurs français, est donc mort cette nuit à l'âge de 86 ans. Le grand public retiendra notamment ses plus grands succès avec Jacques Demy, comme Lola en 1960, Peau d'âne ou encore Les Demoiselles de Rochefort. Mais il serait bien minimaliste de s'arrêter à cela. Plus de 200 musiques au total pour le cinéma et la télévision. Michel Legrand est marqué très tôt par un style musical qui sera le fil rouge de sa carrière, Sophie Delpont. C'est le jazz.
Michel Legrand portait le jazz dans le sang, dans sa culture et dans ses compositions. Une passion du swing est née chez lui juste après la Seconde Guerre mondiale. Il avait travaillé notamment avec Ray Charles et Frank Sinatra, mais il avait pu aussi réaliser le disque de ses rêves de l'époque, en 1958. Il racontait cet amour du jazz en 2014 sur France Culture, dans l'émission À Voix Nue.
Les gens de Colombie me disent, écoutez, Legrand, voilà... Vous savez, faire un disque, on en a vendu déjà 8 millions, vous ne touchez pas un centime. Donc, dites-nous le disque que vous avez envie de faire, et on vous l'offre. Sympa. Alors, naturellement, j'ai dit, moi, je vais faire un disque de jazz avec Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, et je cite tous les musiciens, mec. Et les gens de Gomis ont dit, d'accord. Et j'arrive à faire, grâce à cela, le grand jazz en 58. Et ces thèmes, un disque de jazz qui est marrant, qui est toujours en vente aujourd'hui.
Non oui, qui est un classique.
C'est ça, qui est devenu une espèce de classique.
Pianiste virtuose, Michel Legrand adorait aussi se produire sur scène lors de ses très nombreux concerts, comme ici en 2001 au Festival de Jazz de Montréal, où il s'amuse sur des variations autour du thème des parapluies de Cherbourg, devenu le standard « I Will Wait For You ». Création musicale et du jeu ne l'avait jamais quitté et laisse derrière lui une œuvre saluée par les musiciens du monde entier et dont je vous laisse encore savourer les notes et leurs couleurs sous les doigts de Michel Legrand.
Delpont, et j'en profite pour rappeler les récompenses de Michel Legrand. 3 Oscars, notamment meilleure musique de film pour Un été 42, c'était en 1972. 1 Golden Globe en 1969. Nous sommes avec Stéphane Lerouge, compositeur spécialiste de la musique. Vous êtes notamment concepteur de la collection de BO Écoutez le cinéma chez Universal. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis pas vraiment compositeur, mais j'ai travaillé avec Michel Legrand pendant des années, surtout les rééditions de ses albums, de ses bandes originales de films. Et on a coécrit ensemble son livre de souvenirs, j'ai le regret de vous dire oui.
Alors juste avant de vous faire réagir, je voudrais vous faire écouter un extrait de Michel Legrand dans l'émission À Voix Nue sur France Culture, c'était en 2014. Il ne parlait de son amour pour la musique.
C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Je trouve que c'est l'art le plus élevé, le plus riche, le plus sublime, parce que c'est rien. C'est dans l'air, c'est un courant d'air, ça n'existe pas. Et ça n'existe que pour nous qui avons des partitions qu'on peut lire, relire. Mais pour le public, ça s'envole. C'est inaccessible. On l'attrape pas, on le sent pas, on le touche pas. On l'enferme pas.
Stéphane Lerouge, cette musique qu'on n'enferme pas, c'était toute sa vie à Michel Legrand. Il lui a dédié sa vie d'ailleurs.
Oui, il lui a dédié sa vie, même s'il a toujours aussi voulu explorer d'autres disciplines, parce qu'au départ, il voulait devenir compositeur. Il y a le piano aussi, il était pianiste, il a voulu aussi devenir chanteur, il était chef d'orchestre, il a réalisé 2 films. Enfin, il voulait tout le temps, c'était une des choses qu'il aimantait le plus, c'est défricher des territoires encore inédits, encore vierges pour lui. Et puis surtout cette idée qui est là la base, qui est de tout de suite d'amalgamer le maximum de langage, de styles musicaux en une seule voix, la sienne. C'est que Michel, c'était vraiment ça. C'était un dynamiteur de frontières.
C'est ce que vous pensez. C'est pour ça qu'il a pu traverser toutes les époques. On l'a dit, hein, pratiquement 65 ans de carrière avec toujours ce même succès.
Oui, ce même succès, et puis d'être tout le temps réactivé par des nouveaux metteurs en scène. Moi, j'étais très touché quand, après le succès de Des Hommes et des Dieux, en 2014, Xavier Beauvois est venu le solliciter pour ses nouveaux films. J'étais bouleversé quand il a mis en musique le film d'Orson Welles l'année dernière, il y a 10 mois exactement, le film posthume d'Orson Welles. Et puis c'est des rencontres, c'est Nathalie Dessay qui est entrée à un moment important de sa vie, et avec elle, il a fait plusieurs disques, dont l'aboutissement de ce grand oratorio qui s'appelle Between Yesterday and Tomorrow, qu'il avait rêvé en 72 pour Barbara Streisand, et qui finalement a pris corps, a pris forme il y a 2 ans avec Nathalie Dessay. Donc c'est vrai qu'il a eu tout le temps la chance de se réinventer en permanence, et d'avoir des rencontres aussi qui l'ont amené là forcément où il ne pensait pas aller.
On a parlé de ce palmarès, Stéphane Le Rouge, ses Oscars, ses récompenses, Oscars notamment à l'étranger, hein. Est-ce qu'il a eu finalement la reconnaissance qu'il méritait en France ?
Écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'il est toujours le compositeur français le plus célèbre à l'échelle planétaire. C'est un dieu vivant en Russie, aux États-Unis, au Japon, dans beaucoup de pays européens. En France, je dirais qu'il y a des films, notamment ce qui touchait le plus, c'est de voir, et je l'ai vu encore il y a quelques semaines aux premières de Podane au Théâtre Marigny, Podane version scénique, quand il y avait des petites filles qui venaient le voir pour une photo, une dédicace, et qui connaissaient par cœur les chansons de Podane ou des Parapluies ou des Demoiselles de Rochefort. Et ça, chez un créateur qui était actif dans le domaine de la musique depuis 1952, donc vous imaginez, donc il y a 65 ans effectivement de musique, voir que les enfants du 21e siècle connaissaient toujours son œuvre, ça le touchait énormément. Ça lui donnait comme des garanties sur la vie, la survie, la pérennité de son œuvre et de son écriture.
Stéphane Leroux, je voudrais qu'on écoute un autre extrait. Cette fois, c'est une séance de travail entre Michel Legrand et Jacques Demy pour la composition des Demoiselles de Rochefort.
Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux.
On l'entend, il y a beaucoup de tâtonnements hein, sur la version pour arriver finalement au résultat qu'on connaît. C'était un perfectionniste, Michel Legrand.
C'était un perfectionniste, et vous voyez dans ses séances de travail avec Demy, alors Demy était un axe essentiel dans sa filmographie, mais enfin il a travaillé aussi avec Orson Welles, Robert Altman, Clint Eastwood, Joseph Losey, Godard, enfin il y a des tas d'autres grands cinéastes. Mais avec Demy, il y avait cette méthode-là, et c'est vraiment une méthode de perfectionniste, c'est que Demy lui apportait des textes, et sur chaque texte, Michel écrivait jusqu'à 30-40 propositions de musique différentes. Et ensuite, par élimination, ils arrivaient à ce que nous, on sait être la version définitive. Et ce que vous avez diffusé, ce sont des séances de travail qu'Agnès Varda avait gardées dans des petites cassettes que j'ai retrouvées dans ses archives. Et je me souviens encore du jour où on les a écoutées avec Michel. C'était incroyable, c'est un moment de temps arrêté, c'est-à-dire que lui replonge dans ce passé au présent, qui réentende tout ce chemin de création, ce parcours de création qu'il avait lui-même oublié, parce qu'il se souvenait plus de quelle était la version 34 de la chanson des Jumelles. Pour lui, ne restait que la version définitive que tout le monde connaît. Il avait oublié toutes les versions, comment dire, abandonnées. Et réécouter ça, réentendre la voix de Demy qui réagissait à ses propositions, ça lui avait fait monter les larmes.
Merci beaucoup Stéphane Leroux. Je rappelle que vous avez coécrit 2 livres avec Michel Legrand, notamment « J'ai le regret de vous dire oui » l'an passé, publié chez Fayard. Sachez en tout cas que France Culture rendra de nombreux hommages à Michel Legrand demain soir. Un soft power spécial consacré au grand compositeur. Et puis sur franceculture.fr, vous pouvez déjà retrouver un grand nombre d'archives, notamment des « À voix nue ». 12h39 sur France Culture. Aux États-Unis, le shutdown a pris fin hier. Donald Trump a trouvé un accord avec les démocrates pour sortir de cette impasse budgétaire. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Un accord temporaire seulement, dans 3 semaines, un nouveau shutdown reste possible. Alors, est-ce que c'est vraiment une reculade pour Donald Trump ?
En tout cas, Maxime, il a fait un pas de tactique, hein, pas de côté. La pression ne cessait de monter sur la Maison Blanche. Donald Trump a compris qu'il valait mieux faire une pause dans son bras de fer avec les démocrates. Les images des fonctionnaires américains obligés d'aller à la soupe populaire commençaient à faire désordre. Les témoignages poignants d'employés fédéraux incapables de régler leurs loyers et leurs factures remontaient dans les médias et chez les parlementaires. Et puis, le risque sécuritaire s'aggravait de jour en jour. Le FBI annonçant qu'il ne pourrait bientôt ne plus payer ses indiques ou encore des centaines de vols retardés à New York ou à Philadelphie à cause d'une pénurie de personnel dans les aéroports. Bref, il fallait faire baisser la pression. Pour autant, le président américain n'a pas renoncé à son mur à la frontière mexicaine. C'est une promesse qui était au cœur de sa campagne et il entend bien la tenir, comme il l'a redit d'ailleurs hier. Nous n'avons pas d'autre choix que de construire un mur puissant ou une barrière d'acier. Alors, les trois prochaines semaines seront cruciales pour sortir de l'impasse. Une commission bipartisane du Congrès doit se pencher sur la question de la sécurité à la frontière mexicaine, mais si aucun accord n'est trouvé, a prévenu Trump, eh bien, le shutdown recommence.
Christian Chéneau. Emmanuel Macron exige l'annonce d'élections dans 8 jours au Venezuela. Le chef de l'État l'affirme sur Twitter. En l'absence d'élections rapides, la France reconnaîtra Juan Guaido comme président en charge. Même déclaration ce midi du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.
La bulle économique. Marie Viennot.
Travailler pour un avenir meilleur, c'est le titre du rapport que l'Organisation internationale du travail publie cette semaine à l'occasion de son centenaire et c'est le thème de la bulle économique.
Today we are having a very historic moment.
Nous sommes à Genève, au siège de l'Organisation internationale du travail. Le président de l'Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, qualifie le moment d'historique. L'OIT a 100 ans cette année et publie à cette occasion un rapport sur l'avenir du travail.
Decent employment is inextricably linked and tied to peace.
Le travail décent est la clé de la paix, la prospérité et le progrès, explique le président sud-africain. Et l'OIT a clairement, c'est vrai, un rôle à jouer. L'OIT est la plus vieille instance supranationale. Créée à la fin de la Première Guerre mondiale, pour que la concurrence internationale ne se fasse pas au mépris des droits humains, elle a survécu à la Deuxième Guerre, mais son pouvoir normatif est resté limité. Les États ratifient ces conventions, mais l'OIT n'a pas de pouvoir de sanction ni de contrôle. Des organisations créées après elle, le FMI, l'OMC, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle et bien d'autres ont su imposer leur agenda économique, mais force est de constater que le social a souvent été relégué au second rang. Faire passer la justice sociale au premier plan, en lien avec le défi climatique et technologique, c'est l'enjeu qui attend l'Organisation internationale du travail et c'est un enjeu historique. Car l'avenir du travail ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. La robotisation et l'intelligence artificielle vont créer de nouveaux emplois, mais en détruire beaucoup plus. Toutes les études le disent. Le rapport de l'OIT publié cette semaine redonne quelques chiffres édifiants. 47% des travailleurs aux États-Unis risquent de voir leur emploi remplacé par l'automatisation, les deux tiers dans les pays en développement. Or, la population mondiale augmente et il y a déjà 190 millions de personnes sans emploi. Les projections, le présent, la tendance, tout pousse à l'aggravation des conditions de travail dans le monde, la désunion des sociétés, l'isolationnisme, le nationalisme, prévient l'OIT dans son rapport. Organisation tripartite, composée des États, des syndicats, de salariés et d'employeurs, elle veut jouer le rôle de boussole, indiquer le chemin à suivre. Mais ce chemin sera-t-il obligatoire ou optionnel ? C'est la question de fond, question lancinante et toujours pendante. Nous sommes dans un chaos normatif au niveau international, dans un régime d'irresponsabilité généralisée, explique Alain Supiot, professeur de droit et membre de la Commission sur l'avenir du travail qui a publié le rapport du centenaire cette semaine. Pour lui, il y a deux options. Soit les injustices sociales continuent d'être gérées par objectif et sans contrainte, c'est la voie que suit l'ONU avec ses objectifs de développement durable, lesquels ont remplacé les objectifs du millénaire, soit on édicte des règles communes qui affirme la primauté des droits humains sur les règles économiques et financières. Dans la première option, celle de la continuité, l'OIT agit comme une agence, mettant ses moyens, son expertise, ses rapports et ses recommandations au service d'objectifs louables mais non contraignants. Dans la deuxième option, elle devient le régulateur mondial du travail. Qui peut en décider ? Qui en décidera ? Cette alternative sera-t-elle seulement évoquée lors des festivités du centenaire de l'organisation ? Question ouverte. Mais il y a une opportunité à saisir. Le multilatéralisme s'est affaibli faute d'avoir pu enrayer la croissance des inégalités. Les associations ne sont plus les seules à le dire. Le Forum économique de Davos en parle chaque année depuis 10 ans. Ces inégalités attisent la violence et aujourd'hui, les États en ont conscience. Notamment la France, qui veut faire du G7 qu'elle préside cette année un G7 social. Le centenaire de l'Organisation internationale du travail, en juin, sera l'occasion de voir qui vient, qui ne vient pas à son assemblée et qui propose plus de régulation sociale et qui n'en veut toujours pas.
Marie Viennot, la météo de ce samedi en deux mots, c'est froid et gris, sauf autour de la Méditerranée.